et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importent vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, Milkshaker a le plaisir de recevoir Carla Ferrari, que vous connaissez peut-être, car Carla était l'une des concurrentes qui aura laissé sa trace dans le Top Chef 2023. Alors, quand durant l'épisode où elle est malheureusement éliminée du concours, Carla nous fait un dessert intitulé « Milk ta mère », évidemment, le lien avec la mif tagine banane est très vite fait, et moi ça me donne envie de l'interroger, alors que je comprends qu'elle allait depuis le début du concours son fils, et s'arrange pour mener de front sa vie de maman allaitante et sa carrière professionnelle. Alors Carla va vous raconter toute son histoire d'allaitement, qui est terminée le jour où nous enregistrons cet épisode, comment cela a démarré, comment elle s'est retrouvée à participer à Top Chef en plein postpartum, sans renoncer à son projet d'allaitement qui lui tient à cœur. Au programme, démarrage d'allaitement pas si facile, remarques non sollicitées, Top Chef et tournage intensif durant des semaines, tirage de lait insolite au crayon et sevrage tout en douceur. Bref, une belle histoire qui aidera, j'en suis sûre, à normaliser l'allaitement et à se dire qu'allaiter et reprendre le travail, c'est carrément possible. Je vous souhaite une belle écoute.
Salut Carla, bienvenue dans Milkshaker.
Salut Charlotte.
Carla, je suis hyper contente de te recevoir. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent? Parce qu'en voyant ta photo, je pense que certains t'auront repéré et te connaîtront déjà, mais sait-on jamais?
Moi, je suis Carla Ferrari, je suis cuisinière et j'ai participé récemment à la dernière édition de Top Chef.
Voilà, c'est comme ça que je t'ai contactée. Bon, moi, j'ai suivi Top Chef. Hein. Je suis enceinte, pas hyper en forme physiquement. Autant dire que mes mercredis soirs, c'était calé. J'étais devant Top Chef jusqu'à pas d'heure. J'étais bien fatiguée, j'ai dit. Et donc, du coup, j'ai suivi un peu ton histoire. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que tu allaitais ton bébé dans les coulisses de Top Chef, que tu t'étais organisée pour pouvoir mener de front et ta vie de maman comme tu l'entendais, et aussi ta vie de cuisinière et de participer au concours. Et donc, ça m'a interpellée, sans parler de la dernière émission où tu participes, où tu nous fais le fameux dessert Milk ta mère, qui a fait un peu parler de lui. Et donc, je me suis dit, il faut que je la contacte et voir si elle veut nous raconter son histoire.
Je suis super contente de pouvoir en parler, comme je l'ai fait déjà à la télé, j'y tenais beaucoup. Et donc, plus j'en parle et je pense que plus ça peut décomplexer d'autres mamans qui ont envie de vivre leur rêve et d'allaiter en même temps. Et donc voilà.
Ouais. Non, mais je te remercie d'en parler. Je pense que ça va beaucoup aider à normaliser encore l'allaitement qui en a besoin. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Carla, depuis combien de temps là pour l'instant tu allaites et comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que pour toi, allaiter, c'était une évidence ou est-ce que pas du tout?
Alors, ça fait combien de temps que j'allaite? En fait, c'est que j'allaitais parce que c'est fini depuis peu. J'ai allaité pendant un petit peu plus d'un an, il y a 14 mois, donc c'est tout récent. J'ai décidé, moi, d'allaiter un peu parce que j'ai ma maman qui m'en a toujours beaucoup parlé. C'est qu'avec moi, elle n'avait pas réussi à allaiter, elle l'avait très mal vécu. Et du coup, pour mon petit frère, elle s'était vachement renseignée. Elle me racontait qu'elle faisait une tour de France, des conférences de la Cheerleague, enfin. Et du coup, elle est devenue un peu fana. Et à son tour, elle a essayé de me transmettre un peu ça, de me préparer, parce que moi, je lui ai laissé un peu, oui, j'ai envie d'allaiter, pourquoi pas, c'est normal, on verra ça après l'accouchement. Enfin, c'était pas du tout dans l'ordre de mes priorités. Et elle m'a un peu mis la puce à l'oreille en me disant « Écoute, ça se prépare, c'est pas facile. » Et heureusement, en fait, que ma mère était là, parce que sinon, effectivement, je me suis retrouvée à la maternité, avec un peu au milieu d'un débat entre des sages-femmes qui étaient hyper pro-allaitement, hyper à l'écoute et attentifs pour m'aider, et au contraire, d'autres membres du corps médical qui étaient en mode « Bah non, là, ton fils, il mange pas, donne-lui du biberon après 24 heures qu'il était né. » Et je pense que si j'avais pas eu cette préparation mentale de ma mère qui m'avait un peu martelée comme... Ben voilà, comme je suis toute petite sur n'importe quoi, elle martèle, et elle a bien fait de me marteler sur l'allaitement. Parce que sinon, j'aurais sûrement pas osé un peu lever la voix et dire « Bah non, moi, j'ai envie d'allaiter. »
Il a fallu que tu t'imposes, en fait.
Tu m'as imposé, ouais, dès le départ. Et je m'attendais pas, en fait, à me retrouver dans cette situation. Et donc, c'était une des nombreuses fois où je me suis dit « Ah bah, en fait, ma mère avait raison.
» Les mamans ont souvent raison, finalement. Alors, toi, t'habites en Italie, Carla. Est-ce que tu peux nous dire, si tu as une idée, de qu'est-ce que c'est le contexte en Italie autour de l'allaitement? Est-ce que c'est quelque chose justement de normalisé ou pas du tout? Est-ce que vous recevez beaucoup d'aide avant l'accouchement, tu vois, pour vous préparer à ça? Ou non, là, de ce que je comprends, pas tellement.
Pas trop, non, je t'avoue qu'au niveau d'aide publique du système sanitaire, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Enfin, dans ma tête, je vois plein de petits prospectus partout à l'hôpital, et j'ai les sages-femmes et tout, mais enfin, ça reste assez impersonnel. Dans la société, c'est vrai que c'est quelque chose que enfin, j'y avais jamais trop pensé, parce que je pense que j'ai jamais trop vu beaucoup de femmes allaiter.
Oui, on ne voit pas tellement les femmes aux terrasses de café allaiter, c'est pas quelque chose de complètement normalisé.
Non, alors moi, mais c'est vrai que j'ai habité aussi à Paris et c'est vrai que je voyais beaucoup plus de mamans qui se baladaient au parc, aux terrasses de café avec un enfant qui tète. En Italie, moi, enfin, c'est pas quelque chose dont je me rappelle pré-accouchement, pré-grossesse. Et la chose qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est qu'entre-temps, en fait, moi, j'ai accouché à Turin, donc dans le nord de l'Italie, et j'ai déménagé après deux mois à Naples et j'ai senti, en fait, c'est un énorme gap entre le nord de l'Italie, qui était peut-être plus proche de la France, sur lequel enfin, je ne me suis jamais sentie observée ou quoi en allaitant, et en arrivant dans le sud de l'Italie, où je pense qu'il y a un peu plus cette tradition aussi de beaucoup regarder son prochain. Et de, voilà. Ça peut être très positif dans le sens, bah oui, tu parles à tout le monde, à ton voisin, et tout le monde se parle, mais aussi c'est là où j'ai commencé à avoir un peu des regards assez insistants, des personnes qui m'ont fait des remarques, absolument pas demandées.
Pas hyper bienveillantes.
Voilà, et donc je pense que du moins dans le sud de l'Italie, c'est moins normalisé qu'en France.
Donc du coup, toi, tu as quand même accouché à Turin.
Oui.
La maternité était là-bas. Donc quand tu dis, il y en avait qui étaient hyper pro-allaitement et d'autres qui me disaient de donner le biberon, du coup, ça ressemblait à quoi les remarques? C'était vraiment par rapport au sujet qu'au démarrage, ton fils avait du mal à prendre peut-être et que du coup, il avait du mal à prendre du poids?
Oui, exactement. Même à la maternité, donc de manière très précoce, certaines infirmières qui ont décidé « Non, là, il tète pas bien, laisse tomber, on va lui donner un biberon. » Voilà. En fait, je pense que moi, j'ai l'impression de pas être considérée du tout. Et comme si on me disait « Non, mais de toute façon, l'allaitement, c'est un truc à toi. » Enfin, pas comme si c'était quelque chose dans l'intérêt de l'enfant. Mais toi, c'est ton délire, tu veux allaiter alors que tu penses pas à ton fils, quoi. C'était hyper culpabilisant, en fait, parce que moi, c'était pas mon premier enfant, je savais pas du tout quoi faire. Enfin, j'étais vraiment dans la phase où rien que le tenir, c'était un miracle. Attends, comment je le prends, à droite, à gauche?
Ça fonctionne pas comme les casseroles et les poils?
Non,
les bébés.
Pas du tout. C'était pas du tout une évidence. Et c'est marrant parce que quand je pense à comment j'ai fini mon allaitement, où j'allaitais en voiture, n'importe où, et au départ, enfin, c'était le coussin, la position, le truc, la crème, les coquillages, enfin, ça me semble, enfin, j'en rigole, mais au départ tout était compliqué, effectivement, quand quelqu'un du corps médical arrive et dit pour grossir le trait, bah, t'es une mauvaise mère parce que tu veux juste l'allaiter, tu veux pas lui donner un biberon, alors que, enfin, je me souviens d'une infirmière qui m'a dit, mais attends, mais tu le laisses mourir de faim là, alors qu'en fait ce dont j'avais besoin, c'était justement une sage-femme qui est venue ensuite, qui m'a expliqué un peu comment le mettre au sein, comment éventuellement essayer de tirer quelques gouttes si vraiment il n'arrivait pas à s'accrocher, enfin des solutions alternatives, qui me dit, écoute, si on n'arrive pas à le faire manger, on peut lui donner une seringue, enfin des trucs que moi j'avais beaucoup lu avant, et je me suis dit, c'est dingue qu'on ne me le propose pas en automatique, et donc c'est pour ça que je me suis heureusement qu'au finalement, moi qui étais super... non, je vais arriver, puis on verra bien, tranquille, voilà. Heureusement que je me suis préparée, que je me suis informée et que j'ai pu un minimum m'imposer, surtout en fait dans un moment où t'es vachement de faiblesse parce que t'as plus d'énergie, tu viens d'accoucher, t'as pas envie de te battre avec personne, t'as juste envie de profiter de ton bébé. Et ouais, c'était pas évident.
Ouais, donc toi, en fait, on t'a culpabilisé parce que t'allaitais. Bon, il y en a qu'on culpabilise parce qu'elles allaitent pas.
Ouais, c'est ça.
Chacun son truc. Dans tous les cas, on fait culpabiliser les mères, mais toi, c'était parce que t'allaitais. Très bien. Alors du coup, comment ça s'est mis en place cet allaitement? Au bout de combien de jours ou de semaines, t'as réussi à trouver quelque chose de fluide et comment ça s'est opéré? Est-ce que il a fallu sortir de la maternité?
Je suis sortie de la maternité, bon, avec un peu l'avertissement, fais attention, hein, qu'il grossisse bien, que machin, que truc. Dans toute cette histoire, bah, y avait aussi le papa qui du coup avait super peur. Qui enfin, était bah, beaucoup moins sensible à l'allaitement, pas l'allaitement. Oui, d'un côté, il me soutenait, bien évidemment, mais d'un autre côté, bah, sa priorité, c'était de se dire il faut que mon fils aille bien.
Il ne s'était pas informé comme toi, ta mère ne l'avait pas martelé avant?
Non, il était un peu passé entre les gouttes. Et voilà, et donc ça a été un peu difficile à mettre en place parce que bon, moi, du coup, je culpabilisais, j'étais un peu convaincue. Que ben voilà, il mangeait pas assez, qu'il prenait pas assez de poids, qu'il fallait que ce soit quelque chose de d'évident et de matériel. Enfin, on a commencé à faire des trucs un peu des années 90, à faire de double pesée avant après tétée. Enfin, je me suis vraiment mis la pression. En plus, je suis assez militaire, pareil qu'en cuisine, quoi. Donc j'aime bien avoir des trucs qui sont carrés. Ok, c'est bon, il a pris 10 grammes, il a pris 20 grammes. Enfin, un truc de folle si j'y repense maintenant. Et du coup, j'ai dû faire au moins 2 semaines de marathon où en fait je faisais la tétée, je le pesais avant, je le pesais après, si c'était pas assez je tirais mon lait, je lui donnais au biberon, enfin un truc de fou furieux.
Ah oui, donc toi qui étais bon j'allaiterai, on verra, t'étais quand même passée sur quelque chose de non, c'est là j'ai commencé, maintenant ça va opérer cette histoire.
Enfin limite dans l'extrême opposé, un peu aussi par, je sais pas, c'est devenu un truc assez ridicule de me dire, un peu une revanche. On m'a dit, bah, tu vois, à la maternité, tu n'arriveras pas à l'été, tu verras que j'arriverai à l'été. et au final, ça a été les premières semaines comme ça un petit peu compliquées. Et puis en fait, au final, ça a commencé à se mettre en place, il a commencé à mieux téter et tout est bien qui finit bien. Mais en fait, avec le recul, je me dis, c'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied parce que je faisais toute cette espèce de tralala. Bah, tire le lait, c'était pas sûr de lui un peu de biberon, mais en fait du coup il s'est habitué aussi biberon, donc c'était sûr qu'il allait moins arriver à téter. Enfin, c'était un peu un cercle vicieux, mais sans savoir. Et puis bah, j'étais un peu dans l'angoisse de me dire, je sais pas, moi quand je suis rentrée, mon expérience personnelle, quand je suis rentrée de la maternité à la maison, je me suis dit, attends, mais du coup il est à nous là, genre personne va nous contrôler, enfin comment ça va se passer, vous êtes sûr qu'on est capable? Et donc au moins le chiffre de voir des grammes sur une balance, c'était rassurant. Heureusement qu'au final, au fil des semaines, ça s'est mis en place sans ça, et j'ai réussi à me libérer du tire-lait et toutes ces choses-là, parce que sinon je pense que ça aurait été ce serait devenu rapidement invivable si c'était le quotidien comme ça.
C'était juste une question de poids au démarrage ou est-ce qu'il y avait aussi des douleurs pour toi?
Non, moi, j'ai jamais trop eu de douleurs. Ça, pour le coup, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai entendu pas mal de témoignages assez difficiles dans ce sens-là. Non, moi, j'avais pas forcément de douleurs.
Est-ce que tu t'es fait aider en rentrant à la maison ou du coup, vous étiez vraiment juste tous les trois là avec votre balance pour peser bébé, pour essayer de comprendre pourquoi ça se mettait pas en place facilement? Parce que c'est quand même long, 2 semaines. Tu vois, pour la mise en place du truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait expliquer ça? Est-ce que ton bébé au démarrage, il n'était pas forcément hyper bien? Est-ce qu'il dormait beaucoup? Est-ce que sa succion, tu vois, elle n'était pas efficace?
Mon fils, il a eu la jaunisse. Il était un peu KO. Et donc, il dormait beaucoup. Il avait du mal à se réveiller pour téter.
C'est marrant, j'étais en train de me dire en ce moment qu'il fallait que je fasse un épisode allaitement et jaunisse parce que c'est un vrai sujet.
Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était la jaunisse. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. Alors qu'après coup, ma mère m'a dit, mais toi aussi, tu l'as eu. Bah, c'est un truc super normal. Et c'est pareil, ça a été un autre épisode à la maternité où en fait, on a un peu pris pour une débile. On me dit, enfin, il a la jaunisse, comme tous les bébés, quoi.
Ouais, bah pas tous les bébés, mais c'est vrai que quand ils l'ont, du coup, ça les fatigue vachement et ça aide pas du tout à démarrer l'allaitement sereinement.
Et donc, je me souviens, il dormait énormément. C'était une période, il est né en avril, mais il y avait beaucoup de soleil, donc je le mettais à la fenêtre. Je me suis essayé de voir. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'en fait, moi, je n'arrivais pas trop à comprendre, ça passe, ça ne passe pas. Mon mari, il est aussi un peu un teint, un peu, pas jaune, mais presque olivâtre. Je me suis dit, mais non, ça, c'est la couleur de son père, ce n'est pas la jaunisse. Pas... une sage-femme que j'avais fait venir deux fois à la maison. Et puis, la première fois, c'était un peu la révélation. Tu vois, une personne qui sait exactement s'occuper des bébés, c'était magnifique. Elle me l'a attachée au sein, elle l'a mise sur la balance, tout. Enfin, j'ai l'impression, elle m'a changé mon monde. Et puis au final, la deuxième fois qu'elle est venue, c'était un peu la même chose. Mais je me suis dit, mais quand il pleure, du coup, tu ne sais pas l'arrêter.
Il n'y a pas une technique, il n'y a pas un bouton. Hein.
Parce que c'était tellement impressionnant la première fois. Et au final, voilà, on apprend et ça se fait graduellement, quoi.
Ok, donc au bout d'une quinzaine de jours, finalement, tout ça rentre dans l'ordre et t'as ton bébé qui se met à prendre du poids correctement, qui est plus fatigué comme dans les démarrages et l'allaitement peut vraiment démarrer sereinement.
Ouais, exactement. Après, j'ai toujours eu, mais ça a duré, je me suis quand même un peu inquiétée pendant plusieurs mois parce que ça n'a jamais été, il n'a jamais pris énormément de poids, ça a toujours été un peu un poids plume, enfin même maintenant, il n'est pas très gros, il est très grand, il ne pesait pas beaucoup. Et donc, les pédiatres, ils étaient toujours un peu...
T'étais à la limite.
Ouais, un peu à la limite. La croissance était régulière, mais elle n'était pas énorme, quoi. Donc, dans les premiers mois, bien sûr, on regarde cette courbe qui, si elle est bien stable, si ça va dans le bon sens. Et puis, en plus, il y a eu plein de changements pour lui aussi. Un déménagement, il est passé aussi à des chaleurs extrêmes où il mangeait moins. Enfin, donc, ça se passait bien, mais on était toujours un peu sur le fil de se dire est-ce que tout va bien ? Et puis le truc le plus facile, tout le monde, c'était « Ah non, c'est l'allaitement. » Si tu lui donnais du lait en poudre, tu saurais s'il mange ou pas. C'est évident.
Ouais. Ouais, donc tu as reçu quand même pas mal de remarques non sollicitées de l'entourage, toi. Hein. Tu as été vraiment...
C'est marrant parce que sur la dernière période, en fait, je pense qu'à partir du moment aussi où il a été diversifié et tout, où l'allaitement est venu complémenter, on va dire ça comme ça, je l'ai beaucoup mieux vécu. Mais en reparlant avec toi aujourd'hui, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ouais, j'ai été un peu martelée sur plein de fronts.
Et ta mère qui était hyper renseignée, du coup, elle, qu'est-ce qu'elle te disait par rapport à cet allaitement qui fonctionnait, mais où il y avait quand même une certaine dose d'inquiétude derrière pour toi, de ce bébé qui ne prenait pas autant de poids peut-être que ce que les pédiatres auraient voulu. Elle était rassurée, elle te rassurait ou elle est repassée dans la team des conseils non sollicités
Ma mère a toujours été dans la team hyper pro, mais parfois presque trop tranquille. Dans le sens où moi, je sais, maman, mais j'ai l'impression qu'il ne mange pas. En fait, c'était un peu ma confidente number one. Donc, je savais qu'elle allait toujours me soutenir et toujours aller dans mon sens pour l'allaitement. Parfois, presque trop, parce que j'avais l'impression que, quoi que je dise, de toute façon, c'était l'extrême opposé, quoi. Non, mais ça se passe bien. S'il a faim, il mange. S'il n'a pas faim, il ne mange pas. Mais c'est très difficile d'entendre ça quand... parce qu'elle était loin aussi, et puis au final, c'est des avis très différents. Et en fait, c'est un mot qui est intéressant, des avis. Il y a beaucoup de choses qui étaient, juste des avis, qui n'étaient pas des avis médicaux, pas des diagnostics, juste, c'est ce que je pense. Mais en fait, je m'en fiche de ce que tu penses. C'est difficile parce qu'on a envie de se sentir soutenu. Mais parfois, l'entourage, même de manière bienveillante, c'est pas trop quoi dire, donc...
Et ton conjoint, il s'est rassuré après, passé les 15 premiers jours, ou il a continué de stresser autour du poids du bébé ?
Il était toujours un petit peu, cette pointe de stress, elle est restée pendant quelques mois, mais il est devenu plus serein. On a eu un autre épisode de gros stress, je pense que c'était autour du quatrième mois, où c'est eu le Covid. Donc là, c'était un rebelote, on était pourtant reparti sur une bonne lancée et tout. Et pareil, là encore, parce que... 15 jours pour le faire manger, c'était vraiment, vraiment super difficile.
Parce qu'il était trop fatigué à nouveau.
Ouais, il était trop fatigué. Et puis là, il y en a eu, c'est pareil. Donne-lui de l'eau, donne-lui du biberon, fais ci, fais ça. Et puis, j'étais désespérée. Je ne sais pas trop. Mais voilà, on est passé au-delà de ça aussi. Un peu, je me suis... je pense que ça aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Parce qu'en Italie, il y a un peu ce truc des pédiatres. Même, c'est, je ne sais pas qui a inventé ça, d'où ça sort, mais tout le monde dit, bon, bah, au bout de 3 mois, l'allaitement, ça ne sert plus à rien. Quoi.
Ah oui, alors chez nous, on est plus sur les 6 mois. On commence à décaler cette échéance. Après 6 mois, tu es devenu dingue. Mais de 0 à 3 mois, c'est bien. De 3 à 6, bon, si ça continue, tant mieux, pourquoi pas, mais voilà. Et après, passé 6 mois, tu périmes un peu.
Ouais. Donc, voilà, en fait, moi, juste cette situation... Covid 3 mois et demi, et où tout le monde disait, bon, oui, bah écoute, c'est pas grave, l'allaitement c'est fini, 3 mois, il est tout ce qu'il faut, on fait pas une scène, hein. L'important c'est qu'il guérisse, et où là ça a été super difficile parce que c'était un peu comme si c'était moi qui voulais l'allaiter et que je pensais à moi. Enfin, c'était un peu
fou. Oui, à nouveau.
Et j'avais du mal à me dire, mais non, enfin, c'est difficile à exprimer ce désir d'allaiter parce que c'est pour le bien-être de l'enfant, pour la santé, pour tout ce que ça peut lui apporter en plus sur le long terme.
Et puis pendant un Covid aussi, en fait.
Exactement. Et puis aussi pour les moments de câlin, de fusion mère-fils. Et quand on dit, ça veut rien dire, ça sert à rien, on s'en fiche, c'est hyper dur à entendre. Et donc voilà, moi j'étais un peu la folle qui faisait le tour des pédiatres. Je me souviens que je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là en français. Enfin, je me souviens qu'on m'avait conseillé des conseils en allaitement, des dispositifs d'allaitement avec des petits fils là.
Le dispositif d'aide à l'allaitement, c'est un fil qui vient pour compléter bébé.
Voilà, exactement. Donc moi, qui tirais mon lait, qui faisait ça, et puis même mon mari me prenait pour une folle à l'époque. Enfin, il essayait de pas trop le montrer. Enfin, je lui ai dit, écoute, moi, je pense que c'est important. Là, on trouve pas d'autres solutions, essayons ça aussi. Mais enfin, c'est vrai que c'était comique, quoi. Enfin, moi aussi, je trouvais ça comique comme truc avec mon machin autour du cou en train d'essayer de complémenter mon fils, alors que c'était pas du tout l'image que j'avais de l'allaitement, ni ce que je voulais. Moi, je voulais un truc facile où je pouvais, hausser mon t-shirt en terrasse de café, comme tu dis, pour que ce soit partout sans avoir à transporter des biberons, les ampoules. Enfin, c'était pas du tout l'image que je me faisais de l'allaitement. Donc, ça a été un peu une période aussi où il y a eu des hauts et des bas, quoi.
Ouais, en fait, tu savais pourquoi instinctivement tu disais qu'il fallait continuer. T'avais pas non plus toutes les billes, tu vois, des études, etc., pour affirmer ce que tu disais aux autres. Mais bon, en tout cas, t'as tenu le cap, quoi. Démarrage difficile, Covid à 4 mois, ça aura passé tout ça. Et après, ça aura été plus fluide.
Exactement. Ouais, ouais.
Et puis la diversification intervient, et là, ça te rassure.
Ouais, c'est vrai que et quand j'ai commencé à essayer de le diversifier, il s'en fichait. Enfin, il n'était pas très intéressé par la nourriture. Donc ça m'a d'un côté rassuré à me dire ça veut dire qu'il prend bien le sang parce qu'il continuait à prendre du poids et tout allait bien de ce côté-là. Je me dis finalement l'allaitement ça va. Maintenant on a un nouveau défi. Et puis un fils de cuisinière, il voulait pas manger. Enfin,
c'est vrai qu'il est gonflé.
Un comble. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un peu chaque chose en son temps, quoi.
T'avais commencé à quel âge ?
J'avais commencé un petit peu avant les 6 mois, 5 mois et demi, lui donner des petites compotes, des trucs comme ça, mais...
Il n'était pas prêt ?
Il n'en avait rien à faire, non, voilà, il n'était pas prêt. Le pédiatre disait, essaye. La famille aussi, essaye.
Et on est en Italie et t'es cuisinière, j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut manger du solide, hein. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ce bébé qui boit que du lait ?
Une pote de pain une fois par jour, il la foutait par terre. Enfin bon, juste pour dire, pour que voilà, on lâche la grappe là-dessus. Oui, j'essaye, vous inquiétez pas. Et je pense que, aux alentours de 7 mois, il a vraiment été convaincu. Il a commencé à manger de tout sans problème.
Bon, super. Et alors, au milieu de tout ça, parce que ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est l'expérience Top Chef. À quel moment est-ce que tu t'inscris, parce que c'est un concours en fait que vous passez avec des sélections, etc. À quel moment tu t'inscris ? Est-ce que c'était même en amont de l'accouchement, etc. Comment ça fonctionne ?
Alors en fait, j'étais dans une situation un peu particulière parce que Top Chef m'avait contacté l'année dernière pour l'édition de l'année d'avant. Est-ce que ça t'intéresserait de participer ? Si oui, viens passer les castings. Et j'ai commencé à passer les castings, les premières interviews. Et au final, il n'y a pas eu de suite. Et donc, j'étais un petit peu déçue. Mais enfin, bref, j'ai arrêté d'y penser. Et cette année, on m'a recontactée en me disant la même chose. Et j'étais, attends, mais là, c'est pas du tout le bon moment, en fait.
D'accord.
Ça aurait été idéal. Mais là, je venais d'accoucher. Je venais de déménager. Je venais de vendre mon resto. J'étais, attends, je suis pas du tout prête à repartir dans une aventure comme ça, quoi. Et en fait, mon mari qui m'a dit, mais pourquoi tu dis ça ? Au moment du tournage, il aura grandi, il sera diversifié. Toi, je pense, enfin, tu auras peut-être envie de faire quelque chose. Et puis Top Chef, c'était un peu un rêve. Tu voulais absolument le faire l'année dernière. Enfin, il m'avait vu dans la phase précédente. Je disais, ah, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et puis là, justement, c'est hors de question. Et au final, bah, ça m'a un peu réveillée en train de dire, mais écoute, pourquoi pas? Autant réessayer. Je dis, ok, allez, on refait les castings, c'est parti. Puis on verra bien, quoi. Et j'ai fait les castings. En fait, le jour de casting, c'est donc un test de cuisine.
Donc, du coup, tu montes à Paris, tout se passe
à Paris.
Je monte
à Paris. C'était l'aventure, quoi.
C'était les premiers voyages avec Chouchou ?
Je pense que j'avais déjà fait un aller-retour toute seule en avion bah, pour aller voir ma famille à Paris. Non, non, j'étais assez sportive là-dessus. Et donc, je prends mon fils 3 mois dans l'avion, dans le porte-bébé, machin, pour aller à
Paris. Ok, donc il a 3 mois.
Ouais, il a 3 mois.
Ça démarre.
Pendant les castings. Et c'était... Non, mais je me souviens, c'est du grand n'importe quoi. Je suis arrivée la veille du casting, il fallait importer ses propres ingrédients. Donc, je me souviens que ma mère venue me chercher à l'aéroport. Je lui ai donné mon fils, on allait faire le marché. Enfin, c'était vraiment particulier. Il n'avait jamais été gardé plus de, je sais pas, une demi-heure par ma belle-mère. Et donc, le lendemain, casting de Top Chef, c'était la première fois que je le laissais une journée entière. C'était vraiment un après-midi interminable pour moi. Et en fait, j'avais tiré mon lait, j'avais peur que ce soit pas assez. Et ben justement, il n'était pas diversifié à l'époque, donc c'était que ça.
Enfin, oui, et puis t'étais toujours dans cette crainte de ce bébé qui prend pas non plus tant de poids que
ouais,
ça.
Ouais, un petit peu ça aussi.
C'était la première fois que tu tirais ton lait? Non, t'avais tiré au quotidien pour le compléter.
C'était la première fois où ben, je tirais mon lait et j'étais pas là, quoi. Donc s'il se passait quelque chose, c'était compliqué, quoi.
Ok, donc du coup tu stresses toute l'après-midi.
Exactement.
Malgré tout, tu cuisines pas trop mal puisque
ça s'est plutôt pas bien passé. Je tire mon lait aux toilettes un peu en essayant de me cacher, sans rien dire à personne. Truc chelou, essaye de voilà. J'avais pris mes packs de glace parce que je savais pas si j'avais trouvé un frigo. Enfin, c'était moi, c'était tout nouveau comme truc. Bon voilà, je finis ma journée. Mon fils va très bien, tout s'est très bien passé. Il n'a pas manqué de lait. Tout va bien.
À cette période-là, il tète à quelle fréquence encore?
25 fois par jour.
Ouais, ouais, il passe sa vie au sein. D'accord. Voilà,
c'était beaucoup, beaucoup. Il n'y avait pas forcément de cadence. C'était un bébé qui pleurait beaucoup aussi. Donc, il était, il se calmait souvent avec le sein. Et donc, en fait, c'est ça qui m'inquiétait beaucoup aussi dans le laisser. C'est comment ça va se passer s'il n'a pas la tétée toute, bah, presque pas toutes les heures. Mais enfin, ça pouvait être 3 fois dans une heure s'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc... Comment il va gérer le truc, quoi.
Bon, finalement, il a très bien géré, ta mère
tout
aussi.
Tout s'est bien passé, exactement. Et donc, je rentre chez moi en Italie et j'attends les résultats de Top Chef, quoi. Et au final, il me rappelle en septembre, donc il est passé un peu de temps, quoi. Et ils me disent, bon, bah, dans 2 semaines, on t'attend à Paris. Donc, c'était là aussi, j'avais un peu prévu le truc et puis... les réponses se font un peu attendre, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Est-ce que c'est du bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, j'avais presque un peu abandonné l'idée, quoi. Et au final, quand j'ai eu cet appel, ça a été « Ouh là là, ok, donc 2 semaines, il faut que je trouve un mode de garde, que je m'organise, que truc, machin. »
Donc du coup, quand tu démarres les castings, les tournages de Top Chef, il a quel âge?
Il a 5 mois et demi.
5 mois et demi. Ok, donc il n'est pas encore diversifié, c'est le moment où justement tu essayes et que...
Ouais, j'essaie un peu de lui donner à manger. Donc les premières semaines en fait de Top Chef ont été les plus dures parce que bah, justement il mangeait encore peu de solides, c'était compliqué, il fallait que je tire beaucoup de lait et c'était le début pour moi aussi. L'équipe, la production savait que j'avais mon fils, mais j'avais jamais évoqué l'allaitement. Enfin, c'était un peu moi qui... C'était un auto-tabou, quoi.
Tu te planquais, quoi.
Je me planquais, j'en parlais pas trop. Mais je voyais que, tu vois, il y a un moment où...
T'avais peur que ce soit mal vu?
Ouais, j'avais un peu peur que ce soit mal vu. Et puis, bon, je suis un peu pudique aussi, donc j'avais pas trop envie d'en parler parce que je savais pas comment aborder le truc, alors qu'en fait, c'était très simple, quoi. Parce qu'il y avait toujours des timings très serrés, donc je savais pas trop quand est-ce que je vais réussir à tirer, que machin. Et puis, je lisais plein de trucs. Non, il faut que le tirage dure au moins 20 minutes, au moins 30 minutes pour maintenir la lactation. Moi, je dis, mais je vais jamais y arriver. J'ai des micro-pauses de 5 minutes. Et donc, je faisais un peu le max. Et en fait, au final, c'était un secret bien gardé où ça a commencé par les filles. je me souviens, c'est Bérangère, en fait, la première qui l'a su, parce qu'au premier tournage, à un moment, j'étais vraiment en PLS, enfin, je me touchais les seins, j'avais mal parce que je n'avais pas tiré depuis longtemps, et elle m'a dit un truc, style, « Ah, t'as mal au sein, t'allaites ?» Moi, j'étais bouche bée, je me suis dit, « Attends, mais tout a compris !» Mais écoute, j'ai ma meilleure amie qui était dans le même cas il n'y a pas si longtemps, et donc, voilà. Et c'est elle qui m'a dit, mais t'es débile ou quoi? Enfin, elle m'a dit ça vraiment comme ça, mais parle-en. Enfin, c'est pas normal que.
Reste pas dans la douleur.
Ben oui. Et je pense qu'elle m'a dit un truc hyper léger comme ça, mais je vois pas le problème. Et c'est moi qui me dis, mais si c'est moi la première concernée et c'est moi qui me mets un problème, enfin, c'est sûr que ça va être problématique. Et au final, bah, à partir de là, j'en ai parlé avec la production, avec nos espèces de nounous, nos chaperonnes qui, voilà. Écoute, je suis dans cette situation, j'ai besoin d'un endroit pour tirer, j'ai besoin de savoir quels sont les timings pour avoir à la fois au moins un quart d'heure de paix et d'un frigo. Fin de l'histoire.
Oui, ce qu'il t'aurait accordé évidemment tout de suite si jamais t'en avais parlé avant. Bon, comme quoi, parfois, on se met nous-mêmes la pression là où il ne faut pas.
Exactement, et au final, voilà, bah, ça s'est su, il n'y a pas eu de problème.
Et alors, du coup, ils ont fait comment? Ils t'ont aménagé du temps pour ça? Ou est-ce que vraiment c'était toi qui t'intercalais?
Non, j'essaie un peu de m'intercaler. Il y a eu toujours un peu de communication, de me dire, OK, bah là, on va avoir une pause de tant de temps. Donc,
OK, go.
Donc, tu peux.
Tu courais. Ils t'avaient trouvé un endroit sympa?
Bah, on avait une espèce de loge, donc je me cachais un peu.
OK. Et alors, tu as réussi à tirer facilement parce que ça devait faire des journées quand même assez longues, j'imagine, de tournage, etc. Pour toi, en plus, qui avait un bébé qui t'était encore très souvent, alors je sais, non, peut-être un peu moins, l'été l'avait.
Pour le coup, ça, j'ai pas eu de problème et j'avais un peu d'angoisse parce que quand j'avais tiré auparavant, dans les premiers mois notamment, je trouvais que c'était pas du tout évident. Que je récoltais peu de lait, donc j'avais un peu cette préoccupation de me dire oulala, quand ça va être obligatoire et que j'aurais pas trop. J'étais un peu en flux tendu en fait, parce que bah, je suis arrivée en avion, donc j'avais pas de stock, et en fait ça s'est très bien passé.
Ouais, tu tirais ce qui prenait le lendemain, quoi, en gros.
Bah, même un peu plus, donc non, pour le coup, je pense, bah voilà, parce qu'on était déjà dans une phase où l'allaitement marchait bien, où il stimulait bien aussi, même la nuit, donc enfin il y avait un peu un. Il y avait un bon flux et pour le coup, cette peur, elle s'est vite effacée. Et j'ai réussi à tirer ce qu'il fallait et c'est vrai que c'est tout sauf courir d'avance, quoi.
Et ils pouvaient venir un peu avec toi de temps en temps, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à te l'amener pour qu'ils puissent t'éter aussi au sein?
Sur le tournage, pas du tout. Mais en fait, on était à l'hôtel, pas loin des studios de tournage. Et donc, il était avec moi à l'hôtel. Enfin, c'était vraiment le parcours du combattant parce que ma mère dormait avec moi et lui à l'hôtel. Le matin, elle le prenait, elle l'amenait chez l'assistante maternelle. Elle allait le rechercher, elle me le ramenait à l'hôtel.
Ok, d'accord. Oui, donc t'as pris une assistante maternelle tout le temps du tournage comme une garde classique.
Exactement, qui était une sauveuse. Et puis de l'avoir trouvée last minute et tout.
Ouais, puis sur un timing, défini. C'est pas déjà qu'on galère à trouver des assistantes maternelles tout court.
Exactement. Donc ça a été vraiment une chance qu'on trouve quelqu'un. Je dis on parce que ma maman m'a beaucoup aidée là-dessus aussi et qu'elle aussi accepte de faire pendant presque 3 mois de tournage. Cette double vie aussi, les allers-retours. En fait, quand j'y repense, c'était presque humoristique comme truc, parce qu'en plus, c'était à l'époque où il n'y avait pas d'essence. Il y a eu cette période à Paris, mais enfin, je pense en France, un peu partout, il n'y avait pas d'essence. Et donc, on traversait Paris, ma mère qui habite dans le 78, les tours, les studios qui étaient dans le 93, il me semble. Elle a commencé à prendre le tram avec le bébé. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi?
Est-ce qu'il y a un instant où tu t'es dit, si je participe à cette aventure, j'arrête d'allaiter, c'est trop la galère, etc. Ou la question s'est même pas posée?
Non, pour moi, c'était hors de question. Moi, c'était à l'inverse. Si j'arrive pas à allaiter, ben, je le fais pas.
Et donc, l'allaitement avait pris une vraie place
Ouais, non, en fait, c'est juste que moi, je savais que ça allait être un peu un sacrifice de participer à Top Chef, mais déjà en termes de temps passé avec mon fils, parce qu'en fait, j'aurais eu le choix, j'avais la possibilité de rallonger le congé maternité, de prendre
ouais, du temps. Ouais, ça bouleversait tous tes plans. Hein.
Et moi, je m'étais dit, non, jusqu'à ces 1 an, j'aimerais bien prendre du recul. Enfin, j'ai aussi vendu mon resto pour ça. Maintenant, je me remets dans un autre truc. Voilà. Donc, je veux bien faire des sacrifices, oui, mais il ne faut pas que
Enfin, je ne veux pas faire ce sacrifice parce que je pense que voilà, c'est quelque chose que je ne veux pas lui enlever.
Ok, et alors ça dure combien de temps ce tournage ?
Ça a duré presque, ouais, presque 3 mois, 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi. Et en fait, ça aurait pu durer 2 jours aussi parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est ça qui est hyper bizarre. Et c'est aussi ce qui m'a beaucoup motivée, c'est de me dire, maintenant que j'ai fait tout ce tralala, le changement de pays, toute la famille qui est monopolisée pour faire des allers-retours, l'assistante maternelle, le truc, le tir. Non, maintenant, je reste.
Pas question de sortir à la deuxième émission.
Non.
Ok, très bien. Bon, du coup, ça se déroule comme ça pendant 2 mois et demi, 3 mois, où tu fais les allers-retours, où ta maman fait des allers-retours, l'assistante maternelle le garde, tu tires ton lait, t'es à flux tendu. Mais tout ça fonctionne et c'est dans la même période qu'il commence à manger.
Ouais, exactement. Il a commencé à manger. Là, pour le coup, c'était un peu un pincement au cœur pour moi aussi parce qu'il a commencé à manger un peu avec ma maman, un peu avec les assistantes maternelles et pas tant ça avec moi. Enfin, moi, j'avais déjà fait mes, un peu à la maison. On avait fait des grandes découvertes de DME à repeindre le salon de toutes les couleurs. Mais j'ai insisté aussi là-dessus et... Et le week-end, bah voilà, il y en a qui révisaient les épreuves de Top Chef. Moi, je voulais absolument cuisiner pour mon fils. Donc, je recuisinais. Je disais, bon, ah, ok, t'as pris des petits pots pendant la semaine, mais là, t'inquiète, je vais te faire des trucs de ouf.
Ouais, ouais, c'était quand même beaucoup de sacrifices pour toi par rapport au plan que t'avais envisagé pour ton postpartum, tout ce que t'avais aménagé pour passer du temps avec ton fils. Voilà, t'as essayé de faire au mieux pour concilier les deux.
Ouais, je voulais avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Et bon, c'était pas facile, mais je suis contente au final d'avoir trouvé cette pseudo-équilibre. Maintenant, je t'avoue que le jour où j'ai été éliminée, j'étais d'un côté, j'étais hyper déçue sur le concours et surtout que à cette étape, enfin à ce point-là,
ouais, t'étais vraiment pas loin, ouais.
Parce que je me suis dit, bon, j'y suis presque et j'y croyais presque, quoi. Mais c'est comme quand j'ai mis un pas en dehors des cuisines, c'est comme une redescente d'émotions, d'hormones qui étaient encore là. Et j'ai dit, oh, ok, je vais retrouver mon fils, ça va être cool. On va passer un peu de temps un peu plus tranquille, quoi.
Oui, donc voilà, tu perdais d'un côté, mais tu savais ce que tu regagnais de l'autre.
Oui, exactement.
Mais en même temps, dans la foulée, vu comment était fait Top Chef cette année, en fait, il y avait un concours... un peu dans le noir à côté, là,
ouais.
Avec Dani qui a écrasé tout le monde les uns après les autres pendant des semaines et des semaines. Et donc, tu as quand même un petit effet qui se coule d'Hélène Darroze qui te rappelle.
Ah, oui, non, ça pour le coup, ouais, j'étais déjà dans un autre monde.
Ouais, ça y est, t'étais déjà redescendue, toi.
Ouais,
j'étais partie à l'été.
On était tous un peu redescendus dans le sens où c'est une bulle, c'est comme si une bulle de savon qui explose et voilà, il n'y a plus rien autour et on ne s'y attend pas. Et donc, c'est. Ça a été un nouvel électrochoc. Finalement, c'était une petite parenthèse. Mais...
Oui, c'était une petite parenthèse parce que malheureusement, c'était la dernière, je crois.
Oui, j'étais la dernière à me faire battre par Dani.
Oui, tu aurais été la dernière victime de Dani sur ce concours-là. Et après, finalement, voilà, tu reviens juste pour la finale.
Oui, et là, pour le coup, bah, ça s'est tourné quelques mois après.
Ah oui, parce que oui, exactement, ça prend du temps, c'est pas au même moment.
Non, c'est pas au même moment, c'est pas quelques moments, enfin, c'était, je me rappelle plus exactement, c'était pas au même moment, et donc c'était super sympa, parce que j'avais une autre sérénité.
Ok, très bien, donc du coup, quel âge il a quand ça s'arrête, Top Chef, pour toi ?
Bah, 8 mois, je pense, ouais.
Et il aura été allaité jusqu'à 14 mois, de ces 8 mois, à ces 12 mois, pardon.
Ouais.
Les 4 derniers mois, ça se passe sans encombre.
Ouais, non, ça se passe super bien.
Qu'est-ce qui te fait arrêter ? Qu'est-ce qui te fait envisager le sevrage ?
Alors moi, je m'étais un peu mis un objectif. J'aimerais bien l'allaiter au moins un an. Après, on verra. Et au final, je sais pas en fait. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Il cherchait un petit peu moins. Et ben, il mangeait de plus en plus.
Et toi, c'était le bon moment pour toi ?
Ouais, j'étais sereine avec l'idée d'arrêter. Je me suis pas dit un jour, bah tiens, je vais arrêter. J'ai commencé à lui faire manger des produits laitiers, à insérer des trucs un peu à droite à gauche. Ah non, il y a eu aussi. Non, je pense qu'un truc qui a pas mal influencé ou en tout cas aidé au sevrage, il a commencé à aller à la crèche. Il tétait plus du tout la journée. Au départ, je laissais un peu de lait à la crèche et en fait, il n'en a jamais demandé. Les premières semaines, dès qu'on se retrouvait, c'était grosse tétée de retrouvailles à la sortie de la crèche et tout. Et puis, Au final, je me suis rendu compte qu'à un moment, il a demandé plus forcément. Enfin, c'était juste des câlins et puis il cherchait pas forcément le sein.
Et il tétait plus la nuit.
Il tétait un petit peu la nuit, mais voilà, sans plus.
Oui, donc petit à petit, peut-être aussi que la lactation a
oui, a baissé, a baissé aussi. Et donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être le moment.
Un an que tu t'étais fixé, c'était un an parce que tu trouvais que c'était bien qu'il soit allaité pendant un an. Est-ce qu'il y avait l'idée d'allaiter un bambin qui t'embêtait un peu ?
Dans ma tête, je ne sais pas trop pourquoi je m'étais fixé un peu cette limite de un an, parce que c'était aussi ce que je m'étais dit pour recommencer, aussi la limite pour recommencer à travailler. C'était un peu un chiffre rond quoi, que je m'étais mis dans ma tête, et puis que je m'étais dit pour le coup, voilà, maintenant si je reprends, je ne pense pas que d'avoir envie de faire du tir allaitement. Enfin, j'avais un peu, après, ce sera peut-être pas nécessaire parce que à cet âge-là, il sera peut-être que la nuit, donc la journée. Enfin, je sais pas, c'était une logistique qui ne convenait pas forcément. Et puis, en fait, je le voyais aussi, lui, plus détaché du sein, comme s'il avait moins besoin, qu'il demandait moins. Et donc, je me suis dit que c'était un peu le bon moment. Après, c'est sûr, je pense qu'il y a eu une partie aussi de l'entourage qui disait, quand est-ce que tu vas arrêter ? Parce que c'est vrai.
Bah là, ça commençait à être sacrément long hein, pour eux.
c'était long. Hein. Je ne vais quand même pas l'allaiter jusqu'à 2 ans. Hein. Et moi, je disais, pourquoi pas ? En fait, ça me dérangeait de céder, de plier au truc qu'on me disait, tu vas arrêter, hein, non ? Mais moi, j'avais envie d'arrêter parce que je me sentais bien à ce moment-là d'arrêter. Que je me suis écoutée et j'ai écouté mon fils aussi qui était dans une phase hyper sereine vis-à-vis de ça, parce que pour le coup, je pense que 10 mois, c'était pas le moment, 11 mois, c'était pas le moment, parce que si je lui refusais le sein, c'était catastrophique. Il a acquis pas mal d'autonomie, je pense aussi à la crèche, et il avait un rapport différent avec mes seins, avec mon corps, et voilà, je suis bon, c'est peut-être le bon timing pour nous deux, et je dois dire que oui, ça a matché avec le moment où on me dit un an, ok, c'est bon, lâche l'éponge. Je me le suis un peu, j'essaie de pas trop l'écouter, de pas me dire que c'était un choix forcé, parce que je pense que ça l'était pas. Mais je pense aussi que si j'avais décidé de continuer, ça aurait été difficile à vivre par rapport à l'entourage.
À ton conjoint aussi, tu penses ?
Ouais, mon conjoint aussi, lui comme beaucoup de monde, c'est une question aussi d'influence des autres, quoi. Enfin, c'est un truc à domino. Il y a le pédiatre qui te le dit, il y a la maîtresse à la crèche qui te le dit, il y a ta belle-mère qui te le dit, il y a machin qui te le dit. Et on vit un peu dans ce truc-là.
Oui, quelque part, que tu le veuilles ou non, la société influe sur tes choix, ouais. Quoi.
Et franchement, ça me saoulait de devoir me justifier. Je pense que si j'avais pas eu ce truc-là, ça aurait peut-être duré quelques mois de plus. Je pense pas que j'aurais allaité jusqu'à 2 ans, 3 ans, un peu, parce que voilà, les rythmes de vie avaient changé, la crèche, la lactation qui a baissé, etc. C'était plus devenu un truc câlin qu'alimentaire. Mais je pense que l'allaitement câlin, ça aurait peut-être duré un peu plus, quoi. Mais à partir du moment où voilà, il a commencé à marcher aussi, où sa mobilité était différente et tout, et enfin, j'étais moins à l'aise à lui proposer. Je sentais que voilà, quand des regards un peu plus pesants et tout, et en fait tout s'est fait de manière moins naturelle.
Ouais, je comprends. Donc c'était un peu l'objectif que tu t'étais fixé, et puis la société aidant et la non-normalisation de l'allaitement autour de toi aidant, c'est venu accentuer ton choix.
Si j'avais envie de continuer longtemps, c'est relatif, mais si j'avais envie de continuer, ça aurait été vachement plus difficile.
Si tu devais donner un conseil aux mamans qui nous écoutent et qui veulent allaiter, qui se posent des questions sur l'allaitement, puis peut-être plus particulièrement sur la reprise du travail, parce que là, tu nous as fait une reprise du travail en trombe. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? C'est quoi ton meilleur conseil ?
Mon meilleur conseil, de vous écouter. En gros, d'écouter personne d'autre. Non, alors, je pense que moi, quelque chose qui m'a vachement aidé, je l'ai dit, c'est de m'être informée énormément, mais d'avoir aussi beaucoup de recul sur ce que je lisais, ce que j'entendais. Et un peu la stratégie du trial and error. On essaye, et puis ce qui marche pas, ça marche pas. Ce qui marche, ça marche. Que ce soit dans l'allaitement, dans le sevrage, dans le tir-allaitement. Enfin, moi, je lisais, je passais des heures à plus les pages Facebook. Alors, ok, tu tires à cette heure-ci, ensuite à cette heure-là, pendant tant de temps, fais ci, fais ça. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, et puis au final, bah, ce qui a marché, c'est ce qui marchait pour moi, quand j'avais le temps, avec les temps que j'avais. Quand j'ai un peu pris du recul par rapport à tout ça, et que je me suis dépressurisée moi-même, c'est là que ça...
Ça, c'est le mieux passé. J'ai quatre dernières questions à te poser. C'est okay. Une petite question, ça s'appelle l'interview Fast Milk.
D'accord.
Et dans l'interview Fast Milk, bah, faut répondre fast.
Okay. Okay.
C'est quoi, Carla, ta tétée la plus insolite?
Ouh là là, y en a deux. Un au cirque d'hiver, dans les loges du cirque. Et l'autre, le mieux, c'était au palace, au crayon, tirage 5 étoiles. Je me suis allongée dans la baignoire, sans eau, et je tirais mon lait. Je me suis dit, ah là, pour le coup, Top Chef, merci. Hein.
Est-ce que t'as pris une photo?
Ouais, j'ai mis une photo sur Instagram dans la toilette de crayon.
Ah oui, ça me dit quelque chose. T'es pas dans une espèce de douche?
Si, tout en marbre. Ouais, y a le baignoire à la douche.
Je vois.
Marie-Antoinette.
La classe, le tirage Marie-Antoinette. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, ça peut être ironique ou non?
Le truc pas l'amour, je pense un truc de toutes les mamans, les grosses taches de lait sur les t-shirts, les fuites, super glam.
Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi?
Allongée. Quand j'ai découvert ça, c'était fantastique. Parce qu'au début, en fait, je comprenais pas comment on allaitait allongée et qu'on passait d'un sein à l'autre. Et quand j'ai compris, ça a été une révélation.
Si en un mot, tu pouvais me résumer cet allaitement, tu dirais quoi?
Montagne russe, c'est deux mots.
Ça marche.
C'est deux mots, mais ça marche peut-être quand même.
Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Carla. Et alors, ce dessert Milk ta mère, tu l'as fait spécialement pour Top Chef? Tu l'as imaginé à ce moment-là? Ou alors, c'était quelque chose que tu avais déjà fait?
Non, pas du tout. En fait, on nous a demandé de défendre une cause, un plat qui défend une cause. Moi, je ne suis pas du tout militante, pas pour un sou. Donc, je ne savais pas du tout quoi défendre. Enfin, pas du tout quoi défendre. Je me suis dit... L'allaitement, au final, c'était une évidence parce que c'était une grande partie de mon quotidien. Une battle, justement, aussi. Et au final, bah, le lait, c'est aussi un ingrédient. Donc, j'ai construit un peu ce dessert tout autour du lait avec juste l'idée que ça devait être un message clair. Et en fait, ouais, je m'en fichais de gagner ou pas cette épreuve. Il fallait juste que mon message y passe. Et je pense que ça a été le cas. Et donc, je suis contente.
Je crois. Oh, ce dessert en forme de nichon, oui. Fait passer le message. Bien relayé par la team Tagine Banane, puisqu'évidemment, quand on appelle un dessert Milk ta mère, on sait à peu près d'où ça vient. Mais je crois que dans ta présentation, tu avais le t-shirt Milk ta mère, non? Je crois me souvenir de ça, un de tes premiers passages.
Oui, c'est possible. Oui, non, c'est vrai. C'est quand on nous a annoncé les résultats. Les résultats, j'avais un t-shirt Tagine
Banane. Non, t'as vu, j'ai été assidue.
T'es super attentive.
Ah oui, moi je te dis, mon mercredi soir était bien dans la télé. J'avais des reflux et je me disais, ça a l'air bon tout ce qu'il mange, ça a l'air bon tout ce qu'il mange. Ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter?
Non, je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé.
C'est parfait, j'adore. J'adore, merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire.
Merci à toi.
De nous avoir livré les coulisses de ton histoire, qu'elle soit perso, professionnelle, top chef, etc. Parce que l'entièreté de l'histoire était intéressante, c'était pas juste pour te demander comment ça se passait dans les coulisses de Top Chef et comment c'est de tirer à l'été sur un sol en marbre.
Ouais.
Puis voilà, je pense que ça va aider, comme chaque histoire dans Milkshaker, à venir normaliser l'allaitement, voilà, qui, comme je dis à chaque fois, on a vraiment beaucoup besoin. Donc,
ouais, carrément.
C'est possible. C'est possible et t'y arriver. Et félicitations à toi d'avoir tenu le cap, que ce soit par les difficultés logistiques que ça imposait, et puis aussi, on l'entend plusieurs fois dans ton témoignage, par les remarques que tu as pu te prendre au fur et à mesure et qui finalement influe très souvent sur la façon dont on allait, sur le temps pendant lequel on allait. Et...
Mais je suis super contente de pouvoir le partager, de discuter avec toi aujourd'hui, parce que finalement, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est oui, d'un côté, le vouloir le mieux pour mon fils, en quoi je croyais, etc. Mais ce qui m'a grandement soutenue, en fait, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Le fait d'avoir d'autres témoignages de mamans allaitantes que je n'ai pas forcément vu dans mon entourage ou dans mon quotidien, mais qui, grâce au téléphone, à portée de main, Instagram et ces choses-là, étaient beaucoup plus proches. Et elle me disait, bah, si elles, elles le font, bah, moi, je peux le faire aussi. Et c'est un peu ce que bah, j'ai envie de transmettre quoi, à ma prochaine.
Ok, bah, je pense que c'est très bien fait. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker, où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Say